Le journal Loïc Barrière. En Afghanistan, le guide suprême des talibans a été vu pour la première fois en public depuis la prise de Kaboul. L'ONU envisage une médiation dans la crise soudanaise. Samedi, une manifestation contre le coup d'état militaire a été réprimée par les forces de l'ordre. Au moins 3 morts et des dizaines de blessés. Dans ce journal, coup de projecteur sur le rapport du député Frédéric Petit consacré à la diplomatie culturelle de la France. Le parlementaire s'est notamment rendu au Liban. Avant la COP26 à Glasgow, les dirigeants du G20 se sont engagés sur un objectif de limitation du réchauffement climatique. Ils ont donné leur feu vert également à une taxe sur les multinationales. Près de 400 réfugiés en provenance de Turquie sont arrivés en Grèce. La plupart sont originaires d'Afghanistan. L'Algérie commémore lundi le déclenchement de sa guerre d'indépendance le 1er novembre 1954. Entretien avec l'historien Gilles Manseron. Enfin, le début du Festival de cinéma de Carthage. 57 films sont en compétition. En Afghanistan, la première apparition publique du guide suprême des talibans depuis le changement de régime à Kaboul. Ayatollah Akhundzada a été aperçu à Kandahar. Il s'est rendu dans une école religieuse de la ville. Une apparition qui met fin aux rumeurs sur sa mort. L'Afghanistan, où des hommes armés se présentant comme des talibans ont ouvert le feu sur un mariage. Ils ont tué au moins 3 personnes. Ces hommes reprochaient aux convives de jouer de la musique. Mais le régime taliban a dénoncé cette tuerie. 2 des 3 assaillants ont été arrêtés et le gouvernement assure que les talibans n'ont rien à voir avec ces tirs. Après le coup d'état au Soudan, le représentant spécial des Nations Unies, Volker Perthes, a eu un entretien avec le premier ministre déchu Abdallah Hamdok. Ils ont évoqué la possibilité d'une médiation de l'ONU dans la crise soudanaise après le coup d'état militaire. Selon le responsable des Nations Unies, l'ex-premier ministre est toujours placé en résidence surveillée à son domicile. Samedi, de nouvelles manifestations géantes se sont déroulés à Khartoum et dans d'autres villes du Soudan. Les manifestants ont réclamé le retour du pouvoir civil. Lors de ces rassemblements, les forces de sécurité ont tué 3 manifestants et fait des dizaines de blessés. Vendredi, le député MoDem Frédéric Petit a présenté un rapport relatif à la diplomatie culturelle et à l'influence française. Il s'est rendu notamment au Liban dans le cadre de cette mission. On écoute Frédéric Petit.
J'étais déjà allé au Liban en 2017 dans le cadre du même rapport, puisque c'est un rapport qui se fait tous les ans. Et j'ai tenu à y retourner pour voir dans un pays marqué par une crise politique et sociale depuis 2 ans, puis dévasté par une catastrophe, comment notre réseau de diplomatie culturelle pouvait réagir, avait réagi. Est-ce que la France était toujours présente? Je n'aime pas beaucoup, moi, le terme de diplomatie d'influence. Je préfère présence active de la France. Et je l'ai rappelé à mes collègues. Très souvent, on croit que la diplomatie d'influence, ce sont des outils qu'il faut alimenter avec de l'argent. C'est important, notre budget est en augmentation et nous en sommes ravis. Le gouvernement a fait ce qu'il fallait, mais c'est surtout, j'ai pris cet exemple en commission, ça sert à rien de rajouter de l'essence dans une voiture quand le piston est pas en face du cylindre. Voilà, et qu'on avait un souci de cohérence et d'une expression que j'aime beaucoup qui a été dit par le ministre et par le président de la République en 2019 aux ambassadeurs, qu'ils devaient être des chefs d'orchestre, avec des virtuoses ou des généralistes auprès et rechercher des spécialistes pour que notre diplomatie d'influence soit vraiment une diplomatie de réseau. C'est ça la grande évolution de ces 5 dernières années, c'est que nous avons maintenant une diplomatie qui agit en réseau, c'est-à-dire qui ne se contente pas de gérer les domaines réservés et l'Institut français, etc., mais qui essaye, y compris dans chaque poste, de rayonner, de mettre en œuvre des partenariats avec les gens sur place, ça va jusqu'à des volontaires internationaux qui sont présents, avec des écoles. Voilà, j'ai pris cet exemple du réseau et des opérateurs qui se décloisonnent quand je parle de diplomatie éducative au Liban en 2021, on ne me parle pas que des 54 lycées homologués, donc les lycées français homologués. On me parle des 300 lycées francophones aussi, parce que c'est un réseau. Ils ne sont pas homologués, ce ne sont pas des lycées français, mais ce sont des lycées qui font partie, dont certains sont labellisés, dont certains font de la formation avec les autres. Voilà. Ou même chose avec l'Institut français du Proche-Orient, qui est une place forte de notre diplomatie scientifique. Eh bien, non seulement il y a une vingtaine de salariés, il y a une maison d'édition, donc je suis reçu et je discute avec les gens de ce qu'ils font, de quels sont les problèmes, comment ça se passe, mais également l'Institut français du Proche-Orient est présent sur le terrain auprès des architectes libanais qui sont dans le quartier du port en train de réfléchir à la reconstruction du quartier du port, parce que ce n'est pas que de l'architecture, c'est aussi de la gestion du patrimoine, c'est aussi de la gestion de sociologie, des problèmes sociologiques, comment faire pour que les gens qui y habitaient reviennent ou ne soient pas chassés après la rénovation. C'est des problèmes environnementaux, comment est-ce qu'on peut profiter de cette rénovation pour aller plus loin dans un habitat durable. Donc tout ça, c'est la présence de la France, et oui, la France est présente au Liban.
Cette diplomatie culturelle, elle dépend d'abord de moyens conséquents, ou bien c'est aussi une question de méthode?
Ce sont des moyens conséquents, il y a des moyens en augmentation, mais c'est vraiment une question, je dirais pas de méthode, j'aime beaucoup le mot d'impulsion, voilà, parce que il y a des termes qui ont été utilisés et critiqués comme des termes d'abandon, je parle à celui de réseau, hein, quand je suis arrivé ici, quand on disait qu'on allait travailler en réseau, on était attaqué en disant oui, c'est parce que vous voulez payer moins. Donc non, il faut payer plus, et nous avons payé plus, le gouvernement, voilà, cette année, on a remis 17 millions, plus de 17 millions sur un budget qui fait 700 millions, c'est sensible. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a été abondée en base. Quand on est arrivé, c'était 383 millions, aujourd'hui c'est 417 millions. Voilà, on ne dit pas qu'on veut payer moins. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison, plus qu'une histoire de méthode, c'est un problème. J'aime beaucoup ce terme d'impulsion. Hein. Il faut que, ou de chef d'orchestre, ou de généralistes. Il faut que les ambassadeurs et que soient des espèces de coordinateurs qui donnent les impulsions et donc qu'ils aillent au-delà et chercher des partenaires, non pas parce que ça fait moins cher, mais parce que ça diffuse, parce que ça permet de compléter, parce que ça permet d'être vraiment présent partout dans la société. Je prends cet exemple, un programme qui a coûté très peu cher, mais l'ambassade de France a décidé d'envoyer des artistes libanais, qui étaient évidemment, vous imaginez comment un artiste libanais peut être après le 4 août, avec une crise, il n'a plus d'argent parce que ça fait 2 ans que les banques ont bloqué les comptes, et puis tout d'un coup, il n'y a même plus personne qui vient voir ces spectacles. Et donc, l'ambassade a dit, nous allons les aider à se ressourcer, à respirer. Ils ont fait ce projet qui s'appelle Nafas. Nafas veut dire respirer, respiration en arabe. Et nous avons organisé très simplement, très rapidement, une centaine d'artistes qui ont pu venir passer plusieurs mois en résidence en France pour se ressourcer, pour redevenir créatif. Vous imaginez l'impact? Eh bien ça, c'est pas un impact décidé dans un bureau avec un opérateur en dessous, avec un directeur. Il n'y a pas un directeur de la respiration au Liban, au Quai d'Orsay, c'est normal. Et c'est une adaptation, c'est quelque chose qui diffuse et qui permet on pourrait multiplier les exemples. La loi sur l'aide publique au développement que nous avons votée le 4 août dernier a été l'aboutissement de ce genre de choses. Et je crois que c'est ça, ce problème de méthode. C'est que nous devons être... Nous ne serons jamais la Chine, nous ne serons jamais la Russie, nous ne serons jamais les États-Unis ou les Émirats à venir avec soit de la possession de la terre, soit du néocolonialisme, soit de la dureté militaire, soit beaucoup, beaucoup d'argent, mais nous venons avec quelque chose qui est du travail en réseau, de l'impulsion, de l'animation au sens le plus étymologique du terme, c'est-à-dire donner de la vie.
Le député Frédéric Petit. Le nucléaire iranien inquiète vivement les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ces 4 pays appellent Téhéran à changer de cap pour sauver l'accord sur son programme nucléaire. Leur inquiétude porte notamment sur la poursuite de l'enrichissement de l'uranium. Au Yémen, 218 rebelles houthis tués dans de nouveaux raids ces trois derniers jours près de Marib. C'est ce qu'a annoncé la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite. Les Émirats arabes unis ont rappelé leurs diplomates à Beyrouth. Il s'agit du quatrième pays du Golfe à prendre des mesures de rétorsion contre le Liban après les propos d'un ministre libanais critiquant l'intervention de l'Arabie au Yémen. Les Émirats ont annoncé cette décision en solidarité avec Riyad. Ils ont également interdit aux citoyens émiratis de se rendre au Liban. Réunis à Rome, les dirigeants du G20 se sont mis d'accord sur un objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. Une formulation plus ambitieuse que dans l'accord de Paris, qui semble de bon augure avant la COP26 de Glasgow. Le G20 a également approuvé la taxe minimale de 15% sur les multinationales. Le 67e anniversaire du déclenchement de la guerre d'Algérie entretient avec l'historien spécialiste de la période coloniale Gilles Manseron. Il revient sur l'aspect fédérateur en Algérie de cette page d'histoire.
C'est un événement important puisque ça marque le début de cette guerre d'indépendance nationale. Mais l'opinion algérienne n'a pas complètement basculer dans l'adhésion de manière immédiate. Hein. Il faut attendre, à mon avis, et c'est le point de vue de beaucoup d'historiens, l'été 1955, donc presque un an plus tard, pour que là, dans le Constantinois, en raison de la répression très violente qui s'y était exercée, il y ait un mouvement de révolte, lui-même réprimé aussi, très violemment. Et à ce moment-là, disons que on entre dans un début de lutte armée d'indépendance nationale à partir de l'été 55, moi je dirais. Et puis ça progresse jusqu'en 57, où il y a cet épisode qu'on a qualifié de bataille d'Alger, hein, où il y a eu aussi une répression très violente contre les Algériens de différents courants politiques, hein, ou religieux, qui ont eu tendance à rejoindre le FLN dans la période 55-57. Hein? Et ces courants, c'était des courants essentiellement à référence religieuse, les oulémas, qui travaillaient sur la langue arabe et la religion musulmane, disons, qui était pour une importance accordée à ces traits caractéristiques de la nation algérienne, et d'autres courants, comme le courant de Ferhat Abbas, qui était plus politique, qui s'est rallié à l'idée de l'indépendance au moment de la Seconde Guerre mondiale seulement. Il n'était pas partisan de l'indépendance algérienne, Ferhat Abbas et ses amis, de ce qui est devenu l'UDMA, l'Union démocratique du manifeste algérien, à partir de 1943. Donc ces différents courants, ces différentes forces politiques de la société algérienne se sont rapprochés et ont adhéré au FLN et ont formé le comité exécutif d'abord, puis le GPRA en 1958, le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui était très représentatif des différentes forces sociales, politiques, religieuses, intellectuelles de la société autochtone algérienne.
Cet anniversaire aura-t-il une tonalité particulière compte tenu des tensions entre la France et l'Algérie suite aux propos du président Emmanuel Macron dans Le Monde ?
Ce qui serait utile du côté des autorités françaises et du président de la République, qui a fait quand même des déclarations courageuses en 2017 avant d'être élu, hein, il a parlé de la colonisation comme étant un crime contre l'humanité. Donc ce président, ce qu'il lui appartiendrait de faire, lui reviendrait de faire, ce serait d'expliquer aux Français la légitimité, en quelque sorte, de ce mouvement patriotique qu'est l'insurrection du 1er novembre 1954 de la légitimité de cette résistance nationale qui aboutit à l'indépendance du pays, un petit peu comme avait été légitime la résistance française à l'occupation nazie, dans un contexte différent, parce que là, la France était une nation très constituée, si je puis dire, avec un État qui avait plusieurs siècles d'histoire, alors que là, l'Algérie s'est formée en tant que nation, s'est affirmée en tant que nation, à mon avis, durant la guerre elle-même. Et au début, seul on était persuadé qu'elle en constituait une, quelques nationalistes de différents courants, mais qui n'étaient pas forcément en phase complètement compris, complètement suivi par tous les paysans de toutes les régions d'Algérie, si je puis dire. Il y avait un très grand morcellement de la société rurale algérienne. Donc, ça a été un événement important, mais un événement patriotique, un événement de résistance légitime d'un peuple dominé face à une occupation coloniale, en l'occurrence. Et donc ça, il faudrait l'expliquer aux Français. Et à l'époque de la guerre, des mensonges leur ont été dits aux Français sur le caractère de illégitime. Enfin, c'était des bandits, c'était des hors-la-loi, c'était des tueurs, ils s'en prenaient à des civils, à des femmes, à des enfants, etc. Et les Français n'ont pas, dans leur grande majorité, dans leur grande masse, on le constate aujourd'hui, compris la légitimité de la lutte d'indépendance algérienne. Et ça, il s'agirait de l'expliquer en s'appuyant sur les travaux des historiens des différents pays qui ont travaillé sur cet épisode de l'histoire.
L'historien Gilles Manceron au micro de François-Xavier de Calonne. Un cargo turc est arrivé en Grèce avec 382 réfugiés à bord. La plupart sont d'origine afghane. Le bateau a accosté dans le port de l'île grecque de Kos après avoir subi une panne de moteur il y a 2 jours en mer Égée. À l'occasion du mois sans tabac qui a lieu chaque année en novembre en France, la Ligue contre le cancer souhaite l'interdiction de fumer aux abords des écoles. Pour l'association, le tabagisme chez les jeunes demeure préoccupant. Environ 200 000 d'entre eux commence à fumer en France chaque année. Enfin, la 32e édition du Festival international de cinéma de Carthage. Le festival s'est ouvert ce week-end. 45 pays arabes et africains participent aux différentes compétitions avec un total de 57 films présentés cette année. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.